Alors, Pierre-Yves, dans une enquête en ligne, un nombre important de Canadiens, presque un sur deux qui ont répondu justement à l'enquête, disent qu'ils sont à peu près à 200 $ ou moins de l'insolvabilité financière à la fin du mois.
Ça, c'est comprendre aussi. Est-ce qu'on parle des gens qui ont compris qu'il y avait besoin d'emprunter au bout du mois, donc de piger dans leur marge de crédit ou leur carte, ou c'est vraiment des gens qui n'ont plus aucune possibilité de trouver des liquidités à la fin du mois? Parce que frôler l'insolvabilité, ça veut dire que je suis pas capable d'avoir d'argent, donc pas de marge de crédit, pas de carte de crédit, tout est loadé et je suis à 200 $ près par mois. Ce qui veut dire pas grand-chose, Paul, hein? Dans le monde d'aujourd'hui, c'est une contravention, c'est un super restaurant que t'as échappé, tu sais, il y a pas de fin, là. Et c'est intéressant de voir l'impact sur la liberté, parce que ta liberté financière, c'est ta capacité à épargner, c'est ta capacité à mettre de l'argent de côté, c'est ta capacité à te libérer du contrôle fiscal, c'est-à-dire que la fiscalité canadienne avantage ceux qui épargnent jeunes, leur permet de décaler dans le temps l'impôt, et par conséquent, réduire l'impôt à la retraite ou plus tard, en ayant un revenu moins élevé, mais en étendant ça sur leur vie et en réduisant leur taux d'impôt marginal. Alors, quand on vit à 200 piastres près, la seule façon de s'en sortir, c'est de travailler plus. Ça augmente le fardeau fiscal, ça augmente les revenus, mais est-ce que ça libère de beaucoup de dollars nets au bout du compte? Un peu moins. Alors, c'est vraiment impressionnant comme sondage. Évidemment, ce sont des données comme ça, mais tu sais, d'un autre côté, tu as près de 2 millions de véhicules neufs vendus en 2018. Donc, d'un côté, les Canadiens sont endettés. De l'autre côté, ils sont à 200 $ près, mais on bat des records au niveau de l'immobilier, au niveau des voitures, au niveau de la dépense en consommation. Donc, c'est comme si on avait deux nous autres, là. Il y a un nous qui est pas bien financièrement, mais il y a un nous qui dépense quand même.
C'est un sujet controversé, un chantier sur les stages rémunérés.
Oui, on veut faire au gouvernement un chantier sur les stages rémunérés. En somme, en français, c'est aller faire une consultation, parler aux intervenants. Mais un stage rémunéré, ça soulève les passions parce que est-ce qu'on doit rémunérer, oui ou non, les stagiaires? Ça dépend du contexte. Si vous êtes un stage d'observation, vous dérangez quelqu'un pendant deux semaines et vous observez ce qu'il fait, ben vous apprenez sur le tas. Des fois même, c'est crédité par l'école ou par l'université ou le cégep. Donc, c'est normal que vous ne soyez pas payé. La nature du stage va influencer. Est-ce que la charge de travail est élevée? Est-ce que vous remplacez quelqu'un? Est-ce que vous avez besoin d'une supervision? Oui ou non? Est-ce que dans le domaine où vous êtes, on est prêt à payer quelqu'un pour faire le travail ou vous remplacez un bénévole? Tu sais, ça dépend vraiment de l'offre et la demande. Il y a des domaines comme la télévision, Paul, où il y a tellement de gens qui sont prêts à travailler dans le domaine de la télévision qu'il y a des gens qui sont stagiaires à des émissions année après année après année à faire des 40-50 heures par semaine en stage pour se faire une place parce que tout le monde veut faire ça et il n'y a pas de barrière à l'entrée. Mais dans d'autres situations, il y a des gens qui sont prêts non seulement à accréditer des stages, mais aussi à rémunérer des étudiants parce qu'ils se disent « le former, c'est peut-être de la main-d'œuvre future et comme on est en pénurie de main-d'œuvre, je veux payer l'étudiant pour le former et d'ailleurs, j'ai même du financement gouvernemental pour le rémunérer ou pour le superviser. » Donc, dépendant de où vous êtes, de l'horaire, de la charge du travail, on doit penser à ça, mais on peut pas faire quelque chose de généralisé. Il y a des domaines qui auront même plus de stagiaires, parce que s'il faut les rémunérer, ben il y aura personne qui va vouloir être maître de stage. Donc, il faut regarder, c'est du cas par cas.
Et on termine avec une sortie qui a été réalisée par une ancienne participante d'Occupation Double.
Oui, Karine Saint-Michel. Elle dit, écoutez, je fais moins de 22 000 $ par année, je suis sous le seuil de la pauvreté. Il faut comprendre que pour beaucoup de gens, on rit d'Instagram, mais pour les plus jeunes, on comprend qu'être sur Instagram, c'est faire des vidéos, faire des montages, faire des photos, faire des relations publiques. C'est un emploi, mais dont la nature du travail est différente. Mais pourquoi certaines personnes sont mal payées? C'est parce qu'il n'y a aucune barrière à l'entrée. Paul, demain, tu peux être un influenceur, si tu veux, aller prendre des photos de toi en vacances et faire des publicités de VR, et tu comprends? Donc, il n'y a pas de barrière. Maintenant, toi, tu es connu, tu pourras avoir une bonne valeur marchande comme influenceur éventuellement, mais il y a des gens qui ont moins de valeur. Mais la fille dont on parle, là, elle a quand même 113 000 abonnés sur Instagram, mais ça accote pas les 507 000 de Marie-Pierre Morin, donc ça dépend qui t'es, qui est prêt à te payer. Et souvent, comme influenceur, on veut te payer en contre-échange. tu sais, par exemple, vient manger gratuitement dans notre restaurant 20 fois dans l'année, ouais, et fait quelques publicités pour nous.
Il faut que ça soit déclaré, ça, non?
Oui, effectivement, Paul, à la juste valeur, mais c'est pas tout le monde qui le fait.
Non.
Et aussi, qu'est-ce qui est, dans le fond, une dépense d'entreprise? C'est nébuleux. Et t'as raison, Paul. La question aussi, c'est de dire, c'est pas parce que j'ai des soupes au restaurant ou des fins de semaine à l'hôtel gratuites que ça donne de l'argent pour payer mon loyer.
Non.
Et c'est ça le grand défi des influenceurs. C'est d'être payé en liquide pour le travail fait et non en nature, c'est-à-dire en bien, ben en oui, service.
Mais c'est normal, tout un coût en liquide. Enfin, tout un coût. Donc, tu peux pas avoir seulement du troc ou des services, des échanges, des voyages. Tu as besoin de payer ton pain, ton beurre.
Mais ceux qui t'engagent veulent payer certaines personnes et ils se disent, ben mettons qu'un restaurateur te donne 500 $ de valeur de bouffe au restaurant, mais c'est peut-être une valeur, dans le fond, en liquidité pour le restaurateur de 200 $. Donc, lui, ça lui coûte beaucoup moins cher de donner une grande valeur. Mais selon les contrats échanges au niveau fiscal gouvernemental, si je te donne un service contre un autre service et que ces deux services-là sont l'aboutissement d'un processus de profit, les deux devraient, dans le fond, déclarer les revenus. Donc, le service que je te rends a une valeur et le service que tu me rends a une valeur. Donc, on devrait déclarer ça. Et c'est ce qui fait que les influenceurs vivent un peu en parallèle. Ils ont une petite paye parfois ou une plus grosse, mais ils ont une panoplie de services et de trains de vie qui se publient très bien en photo, mais que dans la réalité financière de tous les jours, ça amène pas de l'eau au moulin, Paul.
Merci, Pierre-Yves. À demain.
Salut.